Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont à la maison. Ça fait plaisir d'être avec vous. C'est des moments uniques, chaque fois différents. Merci Seigneur pour ta présence aujourd'hui. C'est vrai, règne dans mon cœur, règne dans notre cœur, continue de régner maintenant. Le temps passe vite. Et Noël est déjà loin derrière nous. On a rangé le bœuf, l'âne, on a rangé la crèche, on passe à autre chose. Non, non, pas si vite. Je crois que le Seigneur, le Saint-Esprit nous dit encore des choses. Le Seigneur nous révèle des choses par rapport à la nativité et puis André, dimanche passé, a fait sortir de l'ombre un Siméon, le vieux Siméon, qui a, dans Matthieu, dans Luc, il nous a lu que ce vieux Siméon était connecté tellement au Seigneur, il attendait tellement la venue du Messie, il était tellement connecté au Saint-Esprit que ça lui a permis de le voir, de voir ce bébé nouveau-né qui était là, devant lui. Et aujourd'hui, ben moi, je vais pas quitter non plus la nativité. Elle était sur mon cœur tout du long, déjà à la mi-décembre. Donc, je vais en rester à Noël. Je vais en rester à Noël. Et avec vous, on peut mettre le slide. On peut lire Matthieu 1, 23. C'est un verset qui résonne encore dans nos mémoires. C'est sûr. Matthieu 1, 23. Je le lis déjà pour ceux qui ont leur Bible. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge, Marie, sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel ou Immanuel, Immanuel en hébreu, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Et je me suis posé la question, et je vous la pose aussi ce matin, Jésus Emmanuel avec nous. Qu'est-ce que ça représente et en quoi ça change quelque chose en ce début d'année dans ma relation avec lui? Et qu'est-ce que ça va changer encore? Denis nous a dit aussi la fois passée qu'on pouvait que effleurer l'amour de Dieu. Alors ma prière ce matin, puis ça sera aussi le sujet de mon message, Emmanuel, avec nous, eh bien qu'on puisse effleurer un petit peu plus son amour, qu'on puisse l'effleurer encore d'une autre façon, qu'on puisse le toucher encore d'une autre façon. Alors tout d'abord, être avec, qu'est-ce que ça veut dire? Si je veux que quelqu'un soit avec moi, qu'est-ce que je dois faire? Ben oui, l'approcher, lui demander. Eh ben, est-ce que tu veux être avec moi? Je dois m'exprimer, je dois formuler une demande. Sinon, comment la personne avec qui tu veux être pourra-t-elle deviner que tu veux être avec elle? Et puis, il faut qu'elle soit d'accord. Et du moment qu'elle est d'accord, il faut qu'il y ait rencontre. Il faut que vous puissiez vous rejoindre. Tout ça, ça demande un effort. Il faut que chacun y mette du sien. Et maintenant que la rencontre, elle est possible, qu'est-ce que tu attends de la personne qui est avec toi? Oui. Qu'il y ait un échange, qu'elle s'intéresse à toi. Imagine que cette personne, elle en a absolument rien à faire d'être avec toi, qu'elle t'écoute même pas, qu'elle bidouille dans son attelle. Cause toujours, tu m'intéresses. Bien qu'elle t'écoute à moitié, qu'elle te regarde même pas, qu'elle te considère pas, ou qu'elle te raconte sa vie complètement à côté de la plaque. Ou bien qu'elle s'endorme. Cette personne, est-ce qu'elle est réellement avec toi? Non. Non, c'est sûr que non. Ses oreilles, ses yeux, sa bouche, son cœur, sa personne tout entière, elle n'est pas avec toi. On attend beaucoup plus d'une personne avec qui on veut être, non? On attend beaucoup plus. On attend que tout son être soit avec nous. Mais est-ce que cette personne-là existe? Est-ce que quelqu'un existe qui puisse être à 100% avec nous, qui puisse compatir à 100%, qui puisse se mettre à notre place à 100%? Non, non, elle n'existe pas. Et j'en reviens à ma question, Jésus Emmanuel, Dieu avec nous. En quoi ça change quelque chose pour moi en ce début d'année? À la mi-décembre 2021, j'ai pris ma Bible, j'aime bien me préparer avant Noël pour ne pas être dans, comme disait André, dans un cliché ou dans une routine. Et puis, j'ai lu Matthieu 1, je vous lis pas le tout, mais on peut lire un petit bout ensemble. Matthieu 1, voici la généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham, Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères, Judas eut Pérets et Zérach de Tamar, Pérets eut Hetsron, Hetsron eut Aram, Aram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Nahson, Nahson eut Salmon, Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut David, le roi David eut Salomon de la femme du riz. Et, aïe aïe aïe, attention Dora, tu es en mode automatique. Arrête tout de suite. Ça vous arrive jamais de glisser quand vous lisez la parole en mode automatique. Votre bouche, elle prononce les mots, mais votre esprit, il est à des années-lumière. Et là, ça m'a donné vraiment le réflexe de quand je me suis rendu compte que j'étais en mode automatique, de m'arrêter et de dire au Seigneur, mais non, ça va pas. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Moi, je veux que tu sois maintenant avec moi. Dans ce que je lis, je veux que tu sois avec moi. Et puis, c'est, je crois, quelque chose que, ouais, je vous encourage à le faire. Pas seulement en lisant la Bible, mais à tout moment, Jésus, Emmanuel, avec moi. Je veux vivre un cœur à cœur avec toi dans ce que je suis maintenant en train de faire. Et justement, dans ce passage, je l'ai relu encore une fois. Ça, je vous encourage aussi à le faire. Et il y a des prénoms qui m'ont tout à coup interpellée. Quatre prénoms de femmes. Tamar, Rahab, Ruth, la femme du riz, Bathsheba. Elle n'est même pas nommée Bathsheba. C'est juste mis la femme du riz. Ah, quatre femmes. Ah, ça commence à me concerner là. Il y a quelque chose pour nous là. Le Seigneur est déjà avec nous, avec nous. Donc, il nous veut avec lui. Et ça va plus loin. Qui sont ces femmes? Tamar, cananéenne, enceinte de jumeaux par le fruit d'un inceste avec son beau-père Juda. Rahab, n'appartenant pas au peuple choisi, prostituée professionnelle, mère de Boaz. Ruth, Moabite, qui séduit Boaz, un peu sous influence. La femme du riz, Bathsheba, séduite et ou abusée par le roi David qui donnera naissance au roi Salomon. Ce qui m'a touchée, c'est que ces quatre femmes sont inscrites à jamais dans la généalogie de Christ. Pour être avec nous dans ce qu'on vit aujourd'hui, regardez ce que Jésus fait. Il accepte d'entrer, de s'incarner dans une lignée générationnelle telle que celle-ci. Il n'a pas voulu rester étranger à la réalité d'une famille impure, terrestre. Il n'a pas pris de raccourci, il n'a mis personne à l'écart. Tout ça, qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui? Jésus avec moi. Jésus m'entend, me regarde comme personne ne me regarde. Il n'est pas indifférent à ce que je vis. Il sait ce que ça représente de vivre, peut-être, d'être issu d'une lignée familiale où s'est glissée la honte, le déshonneur. Non seulement il m'écoute, mais tout ce que, tout comme pour ces quatre femmes, selon ce que j'ai pu vivre dans ma vie, il va me redonner ma dignité. Il va me redonner ma place dans sa famille. Alors peut-être, parce que je suis devenue grand-mère, j'ai été touchée par une période de la vie de Jésus qui est secrète, qui est cachée, qui passe souvent aux oubliettes parce que on dirait que le ministère de Jésus, la vie de Jésus commence à la crèche. Mais là, j'aimerais vous partager quelque chose. D'abord, j'aimerais lire avec vous Jean 1, 14. Jean 1, 14. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La parole s'est faite homme, la parole s'est faite chair. Ce mot « faite », je suis allée chercher ce que ça voulait dire, puis c'est un terme en grec qui veut dire ginomai, je ne sais pas comment ça se prononce, qui signifie « commencer à être »,« venir à l'existence ». Jésus-Christ a été d'accord de commencer à être. Jean 1, 18 nous dit que le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père a été d'accord de venir s'installer dans le sein, dans l'utérus d'une femme, dans ce qu'il y a de plus intime, dans le corps d'une femme, sous forme de cellules, puis d'embryon, puis de fœtus, pour être avec moi. Lui qui vivait dans l'intimité du Père, et il ne faisait qu'un avec le corps de Marie. Il sentait tout ce qui se passait, les battements du cœur de Marie, la respiration de Marie, les palpitations, les tensions, tout ce qui peut se produire dans le corps, il l'a senti. Jésus d'accord de tirer sa subsistance par un placenta. Jésus d'accord d'être irrigué par le sang d'une femme. Lui, la lumière du monde, d'accord de vivre dans l'obscurité. Tout ça pendant 9 mois. Complètement confiné. De plus en plus à l'étroit. On sait que rien dans le monde n'a été fait sans lui. Et lui, qui a tout créé, il accepte de prendre forme. Il accepte que ses organes, ses os, ses ligaments, sa substance humaine soient soumises à des changements continuels, profonds. Il se soumet à la loi du temps, à l'attente. Il prend aucun raccourci. Comment peut-il ne pas être avec nous dans ce qu'on est dans notre corps, dans ce qu'on vit dans notre corps, dans nos limites, dans nos fragilités physiques? Et ensuite, je crois que tu peux l'enlever. Ensuite, Jésus trimballé. Le voyage de Bethléem à Nazareth, ce n'était pas une promenade d'agrément. C'était 100 kilomètres à pied. C'était des nuits à la belle étoile. C'était certainement un voyage à dos d'âne. Jésus a vécu ça dans le sein de Marie, les derniers mois de grossesse. Et puis, on sait qu'avec les progrès de la neuroscience, un fœtus sent tout. Il sent ce qui se passe à l'extérieur. Il sent les émotions de sa mère, de Marie. Il a senti certainement la joie, l'allégresse, la paix dans le cœur de Marie, ça c'est sûr. Mais l'anxiété. Mais les moments où Marie se disait, mais quand est-ce que je vais accoucher? À quel moment, à quel endroit est-ce que je vais être toute seule? Comment va se passer mon accouchement? Est-ce que Joseph sera là pour m'aider? Est-ce qu'il va tomber dans les pommes peut-être? Comment je vais faire? Jésus a imprimé tout ça en lui-même. Et finalement, la naissance, le choc de la naissance. Et pour la première fois, en relisant Lévitique 12.1, j'ai saisi quelque chose. Je vous le lis juste comme ça. Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle mettra au monde un fils, elle sera impure. Pendant 7 jours, elle sera impure comme au moment de ses règles. Ce n'est pas la naissance qui rendait la femme impure, c'est le sang. Mais Jésus vient au monde comme tout autre enfant. Il vient au monde dans le sang d'une femme. Qu'est-ce que ça signifie? Ce sang est impur dans la loi. Alors, pour moi, par sa naissance, c'est comme si Jésus vient déjà déclarer que mon sang, il est pur, que mon corps tout entier, il est pur. Que rien dans le corps d'une femme n'est impur. Jésus avec moi, avec nous tous, avec nous toutes en tant que femmes, ça m'a bouleversée profondément. Et voilà qu'à peine né, Jésus est menacé de mort. Il est retrimballé, cette fois-ci en Égypte, parce qu'il faut mettre le plus de kilomètres possible entre lui et le roi Hérode qui veut le tuer. C'est une fuite, ça n'a rien non plus d'une balade. Et là, qu'est-ce que devient Jésus? Jésus, je le vois comme un réfugié, un enfant de réfugié. Avec tout ce que ça comporte en termes de déracinement, de perte, de liens familiaux, de liens communautaires. Recommencer à zéro une nouvelle vie, s'adapter, affronter la méfiance, affronter l'omniprésence de faux dieux, parce qu'en Égypte, ben, c'était rempli d'idolâtrie. De plus, c'était le pays de l'esclavage. C'est un exode, mais à l'envers. Ensuite, Jésus, tenu responsable de la mort de je ne sais pas combien de nouveau-nés par Hérode. Je me suis posé la question, Est-ce que Jésus a su cela? Comment est-ce qu'il a vécu ça? Jésus avec nous. Et puis, au moment où on se réjouissait de retourner au pays, de retrouver la famille, les amis, nouveau changement, patatras, ça sera pas possible. Toute la famille, enfin, Joseph, Marie, Jésus, doivent s'en aller à Nazareth. Et puis, Nazareth, quand on lit un petit peu comment étaient traités les habitants de ce pays, Nazareth, c'était un bled sans importance, obscur, insignifiant. Ceux qui habitaient Nazareth étaient souvent méprisés. Jésus, d'accord de passer une partie de son enfance, de sa jeunesse dans ce village. D'accord d'apprendre son métier là. Un métier d'ailleurs qu'il n'a pas vraiment choisi. Voilà. Et c'est que le début, hein. C'est que le début de ce que Jésus a fait pour être avec nous. Maintenant, il a pris aucun raccourci. Il a brûlé aucune étape. Il a accepté aucun privilège, aucune place VIP dans les tribunes. Pour me rejoindre aujourd'hui par son Esprit Saint, pour être avec moi, pour me comprendre à 100%. Il a ressenti, il a imprimé, il a vécu dans son propre corps, dans tout ce qu'il est, quand il était embryon, fœtus, nourrisson, petit enfant, enfant, jeune homme, tout ce que je peux vivre de douloureux jusqu'à aujourd'hui. À vue humaine, il n'avait absolument aucune prise sur le déroulement de sa vie. Et pourtant, Hébreux 5,8. Non, pas encore, excusez-moi, je vais trop vite. Et pourtant, il a été toujours à la bonne place, au bon moment, et il a accompli absolument toutes les prophéties le concernant. Hébreux 5,8. Nous dit, bien qu'il fût fils, Jésus a appris l'obéissance par toutes les choses qu'il a souffertes. Toutes ces choses, il les a souffertes. Et pourtant, la parole nous dit aussi qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Rien ni personne n'a pu arrêter cette croissance. C'est un puissant encouragement pour nous, je trouve. Si rien va comme on veut, dans cette vie, rien n'empêche qu'on croisse à l'image de Dieu, qu'on croisse à l'image de Jésus. Peut-être pour certains, plus en stature, on a fini de grandir en stature, mais en sagesse, en grâce, on grandit. Alors Jésus, Emmanuel, avec nous, ça change quoi dans ma relation en ce début d'année? Et qu'est-ce que ça va changer? Dans quel domaine de ma vie je veux le laisser me rejoindre? L'inviter à être avec moi. Est-ce que c'est dans ce que je vis ou ce que j'ai vécu dans le sein de ma famille? Est-ce que c'est comment je vis mon héritage familial? Ma place d'enfant de Dieu dans une famille où tout n'est pas allé sur des roulettes? Est-ce que c'est dans ma fragilité, dans mes limites physiques, dans mon corps, dans les changements où je ne peux pas maîtriser les choses, où je ne peux rien faire? sous la loi du temps qui passe. On vit tous ça, hein, des forces qui diminuent. Des forces physiques qui diminuent. Est-ce que Jésus veut me rejoindre et être avec moi dans la pression, l'angoisse, le déracinement, la cohabitation constante et usante avec l'idolâtrie ambiante, l'insécurité de tous les jours, la solitude, l'impression parfois que je suis juste le jouet des circonstances trimballées à gauche, à droite, ou tellement d'autres choses encore que j'ai pas, qui me sont pas venues sur le cœur, mais qui viennent sur votre cœur aujourd'hui. Il y a un lynx? Il y a un lynx dans la ville de Chaux-de-Fonds? Alors pour ceux qui nous voient, qui nous écoutent, il paraît qu'il y a un lynx dans le jardin d'à côté, c'est quand même pas habituel. Un lynx nous rejoint. Jésus veut nous rejoindre. Jésus veut nous rejoindre aussi. Il vient et j'aimerais demander un moment juste peut-être de guitare à toi, Rids, parce que j'aimerais vous inviter à entrer dans un cœur à cœur avec Jésus maintenant, à lui dire: Jésus Saint-Esprit, Père, je veux que tu sois avec moi dans tel domaine de ma vie particulièrement. N'hésitez pas à être précis. Ou peut-être si ce n'est pas très clair encore, ce n'est pas grave. Dites-lui: Saint-Esprit, montre-moi dans quel domaine tu veux être avec moi. Tu veux te tenir particulièrement avec moi aujourd'hui, mais peut-être pendant un temps encore, le temps qu'il faudra, parce que Jésus ne prend pas de raccourci. Il reste avec vous le temps qu'il faudra pour vous relever, pour vous restaurer, pour vous aimer là où vous en êtes, pour vous rejoindre, pour vous comprendre. Mais dites-lui: je veux que cette partie de ma vie soit touchée. Je veux que l'année 2022 finisse pas sans que cette partie-là, dans cette partie-là, tu sois avec moi. Faisons-le maintenant. J'aimerais pas qu'on s'arrête. J'aimerais vous inviter dans un deuxième moment, mais un moment d'engagement cette fois-ci. Il y a un verset qui nous dit: bien qu'il fût fils, Jésus a appris l'obéissance par toutes les choses qu'il a souffertes. Oui, Hébreux 5:8. Par toutes les choses qu'il a souffertes, Jésus les a souffertes pour apprendre l'obéissance. Alors, j'aimerais vous inviter à lui dire: Seigneur, par les choses que je traverse, dans lesquelles je souffre, qui me font souffrir, mais dans lesquels tu es avec moi, eh ben je veux apprendre l'obéissance. Je veux que ça soit Toi qui transformes la souffrance en obéissance. Et je veux être avec toi dans cela. Moi aussi, je veux croître en grâce et en sagesse. Moi aussi. Comme toi, tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffertes. Amen. Prenons un petit moment maintenant pour cet engagement. Seigneur, merci parce que tu ne nous laisses pas seuls dans cet engagement. Tu ne nous laisses pas seuls, tu es avec nous pour nous donner d'obéir à ta volonté. Tu es humble et doux de cœur. Je te bénis parce que tu es avec chacun de ceux maintenant qui ont pris cet engagement de t'obéir dans la souffrance, dans le manque, dans la solitude, dans tout ce que chacun peut vivre. Tu es avec. Merci Seigneur. Tu veux bénir chacun, encourager. Et marcher avec et encourager et prendre par la main. Merci Seigneur. Amen.